Terre à Terre, le magazine de l'environnement, où l'on parle ce matin d'écorce et des trésors de la créativité. Fabienne Médard, vous êtes archéologue, vous travaillez sur un matériau dont on pourrait imaginer a priori qu'il a totalement disparu, donc on se demande dans un premier temps si vous travaillez simplement sur la mémoire ou sur des traces picturales ou autres de cet objet qui vous préoccupe, le textile. Des textiles vraiment très anciens, quand on parle d'archéologie, de quelle époque parle-t-on avec vous?
Alors disons que pour ma part, j'ai longtemps travaillé exclusivement sur les textiles du néolithique de nos régions, parce que tous les néolithiques ne sont pas datés évidemment de la même période.
Comment ça, les néolithiques ne sont pas datés?
C'est-à-dire qu'on a des néolithiques du Proche-Orient qui ne sont pas équivalents à nos néolithiques à nous en termes de datation. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu caler les choses tout de suite. Notre néolithique à nous, on va dire, débute plus ou moins vers 7000, 6000 avant Jésus-Christ, va jusqu'à peu près 2200 avant Jésus-Christ. Et donc j'ai longuement travaillé sur cette période lorsque j'ai fait mon doctorat et puis ensuite mes postdoctorats, et donc orienté spécifiquement sur les textiles archéologiques. Alors, il se trouve que dans le cercle alpin, c'est-à-dire l'est de la France, la Suisse, le nord de l'Italie, l'Allemagne du Sud notamment, la région lacustre, on retrouve des restes textiles qui datent de cette époque et ce sont les plus anciens que l'on ait dans nos régions. Donc, comme je voulais travailler aux origines, au plus loin, je dirais, eh bien, je me suis consacrée à ce type de matériel en commençant par l'outillage textile et non pas les textiles eux-mêmes. L'outillage, je l'ai traité lors de mon doctorat, notamment les techniques de filage, les outils de filage, et ensuite lors de mes postdoctorats qui ont duré tout compris à peu près 5 ans. Là, j'ai travaillé sur les restes textiles eux-mêmes pour pouvoir faire le pont entre l'outillage et le produit fini, évidemment.
Qu'est-ce que c'est que ces vestiges qu'on trouve exactement? Qu'est-ce qu'on trouve et où?
Alors, on retrouve ces vestiges sur les sites lacustres, c'est-à-dire que les villages lacustres étaient, et comme le dit le nom, implantés au bord des lacs, ont souvent été détruits par incendie parce que les maisons étaient assez proches les unes des autres, comme nos ruelles médiévales peuvent encore, je dirais, en donner une image. Ces maisons, on sait qu'elles étaient plus ou moins implantées de cette façon parce que, avec les pieux de construction des habitations, on a pu reconstituer le plan d'occupation des villages. Donc, les restes textiles se retrouvent dans le sédiment lacustre. Ils ont été scellés dans des milieux sans oxygène. Donc, souvent, ils sont de couleur noire, noirâtre, mais c'est pas la couleur d'origine. C'est simplement, je dirais, le processus chimique qui a fait que la fibre textile est devenue noire. Et on en retrouve quand même des morceaux qui ne sont pas forcément de petite taille, un peu partout où les hommes se sont installés et où ils ont quitté ces lieux plus ou moins précipitamment, tel qu'on peut l'imaginer en tout cas. Voilà.
Et l'outillage donc, ce sont des objets en bois, en os, en pierre?
Alors, dans ces milieux-là, il faut juste savoir dès à présent que les matières animales n'ont pas été conservées. C'est dû à la chimie des sols. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Donc, nous n'avons que les matières d'origine végétale qui sont conservées.
Mais alors là, tout de suite, Fabienne Médard, ça signifie qu'on n'aura pas une seule peau de bête pour habiller nos hommes préhistoriques?
Voilà, c'est ça. On n'a pas une seule peau de bête, on n'a pas un seul feutre, un seul tissu potentiellement en laine. Nous n'avons que des textiles et autres ouvrages, je dirais, vanneries, etc., faits de fibres végétales. Donc, ceci ne veut pas dire que la matière animale n'était pas utilisée pour s'habiller ou pour transporter sous forme de sac, de poche, je ne sais pas, et pour des tas d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Mais voilà, nous sommes contraints par le milieu de conservation.
Mais là, on parlait de l'outillage. Et donc, c'est par l'outillage aussi que vous pouvez avoir une idée, en tout cas l'intuition qu'il y a eu effectivement des matières animales. On pense évidemment tout de suite à la laine.
Oui. Alors, l'outillage, je vais juste répondre à la question précédente. L'outillage que l'on retrouve, il est généralement en terre cuite, sachant que la terre crue est quelque chose qui intéresse de plus en plus l'archéologie, mais évidemment, les architectures en terre crue ou les objets en terre crue sont nettement moins bien conservés. On a parfois du mal aussi à les identifier. Donc voilà, nous nous en tenons à l'outillage en terre cuite. On a aussi des fusaïoles pour le néolithique qui sont en bois de serre. On a du matériel osseux également, qui est très bien conservé.
Mais donc les usages de cet outillage, parce que c'est là qu'on en venait.
Alors l'outillage, pour ce qui est du domaine textile, va se diviser en deux groupes principaux. On a les fusaïoles, qui sont des volants d'inertie, donc faut imaginer de petits disques percés, que l'on fichait à l'extrémité d'un bâtonnet, on va dire, et les deux formaient ce qu'on appelle un fuseau. Donc on a encore l'imagerie du 19e siècle, des grands-mères qui filaient au fuseau, des jeunes filles qui gardaient les troupeaux en filant au fuseau. Et ben, c'est exactement ça qu'on a au néolithique. Une petite fusaïole enclenchée sur un axe de fuseau en bois, noisetier par exemple, les fusaïoles en terre cuite, voilà. Et l'autre gros groupe d'outillage textile qui a été préservé et qui nous est parvenu, ce sont ce qu'on appelle des poids de tisserand, et qui servait à tendre les fils de chaîne sur des métiers à tisser verticaux à poids. Voilà. Donc cela ne veut pas dire toujours, il faut le garder à l'esprit, qu'on n'utilisait pas d'autres méthodes de filage, d'autres méthodes de tissage, mais on sait au moins qu'on filait au fuseau et qu'on tissait sur des métiers verticaux à poids, puisqu'on a l'outillage en place.
Ces métiers verticaux à poids, ils existent toujours, et aussi c'est assez extraordinaire, cette permanence dans les âges sur une période aussi longue.
Alors, le métier vertical à poids, c'est quelque chose qui a traversé le temps, en effet. Pour faire un rapide survol technique de l'histoire des technologies, au Moyen-Âge, probablement à la fin du Haut Moyen-Âge, oui, apparaît vraisemblablement le métier horizontal. Et pour autant, le métier vertical à poids continue d'exister parce que il a des propriétés, disons, pratiques que n'offrent certainement pas les autres types de métiers à tisser. Donc, on en retrouve en Europe au milieu du XXe siècle, en Scandinavie. C'était implanté dans les habitations. Ils étaient de grande dimension, ces métiers verticaux à poids. Alors, en l'occurrence, les fils de chaîne n'étaient pas lestés par des pesons en terre cuite, mais par des galets, puisqu'on est sur des habitats qui sont en général non loin de la mer. Et voilà, donc c'était une technique qui était encore utilisée il y a très peu de temps pour un usage domestique.
Alors, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir pour l'archéologie, parce que c'est vrai que c'est toujours assez fascinant. La raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que Fabienne Médard, ces fameux textiles dont nous allons maintenant parler, en fait, ils sont le reflet de la relation de ces premiers humains à leur environnement proche et la façon dont ils tiraient parti de cet environnement. Et en même temps, vous êtes même allé plus loin puisque vous voyez même la façon dont ils s'occupaient de cet environnement.
Oui, alors effectivement, en amont de la production textile telle qu'on l'imagine de manière un peu réductrice, c'est-à-dire le tissu, il y a tout un pan d'analyse qui porte sur la matière première, parce qu'évidemment, ça c'est le premier pôle à explorer, c'est qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour fabriquer leur textile à cette époque. Alors, toujours en fonction de ce que l'on retrouve, hein, puisqu'on est quand même tributaire, je le répète, des conditions de conservation, nous avons identifié des matières issues de l'écorce des arbres. Donc on appelle ça du liber, hein, c'est le mot simple, il y a des mots scientifiques plus complexes, mais disons, voilà. Le liber, c'est cette couche qui est sous l'épiderme des arbres, qu'on appelle l'écorce, hein, c'est celle qu'on touche quand on approche un arbre. Tous les arbres n'en ont pas, mais parmi ceux qui en ont, on a évidemment le plus emblématique, c'est le tilleul, parce qu'il en possède beaucoup. Les fibres sont longues, elles sont faciles à travailler. Il y a également le chêne qui en a, il y a le peuplier qui en a beaucoup également, mais de moindre qualité. Par contre, les bétulacées n'en ont pas, c'est-à-dire le bouleau, le cerisier, tout ça, n'ont pas de libère. Alors le libère, ça se présente sous la forme d'une couche assez compacte et claire, juste collée à l'épiderme et avant l'aubier, en fait, le bois. Et donc cette partie-là, il va falloir l'extraire.
C'est une couche un peu tendre ?
C'est une couche qui est pas si tendre que ça. Mais il va falloir l'extraire. Et pour l'extraire, on va pratiquer le rouissage, notamment dans le cadre du libère de tilleul. Alors je prends celui-ci parce que c'est celui que les néolithiques ont utilisé massivement pour leur production textile. Alors en tant que textile au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est, je dirais, de la vannerie jusqu'au tissu, avec toutes les étapes intermédiaires de filets de portage, de petits paniers, voilà. Donc le libère, c'est vraiment la matière textile à tout faire pour un usage quotidien, pas forcément prestigieux. On est dans l'utilitaire. Alors ce libère, il va falloir, ce tilleul, donc ce libère de tilleul, il va falloir l'extraire. Donc on écorce l'arbre, ensuite on va le rouir.
C'est-à-dire en fait pour détacher les fibres les unes des autres.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour détacher cette partie qui s'appelle le libère de l'épiderme, déjà, parce que l'épiderme, ce sont des cellules mortes et on peut rien en faire, en tout cas dans le domaine du textile. Donc on va essayer de détacher ce libère de cet épiderme. Et pour ça, on immerge les écorces dans de l'eau et on attend et on surveille. J'ai pas de recette à donner parce que en fait c'est variable selon que l'on écorce un tronc, selon que l'on écorce une branche, selon que l'arbre est jeune, selon qu'il est vieux et selon qu'il fait chaud dehors ou qu'il fait froid, que l'eau est pleine de bactéries ou qu'elle l'est pas. Donc tout ça, ça va jouer en fait sur la vitesse de pourrissement, puisque le rouissage, c'est un processus de pourrissement. Il s'agit de détruire les cellules radiales qui unissent toutes les couches pour que les couches puissent ensuite se détacher les unes des autres. Donc une fois que le libère est désolidarisé, eh ben, ma foi, il est prêt à l'usage. Alors après, on en fait ce qu'on en veut. On affine les lanières. Il faut juste savoir que les couches de libère qui se trouvaient près de l'épiderme vont être plus dures, plus cassantes que celles qui se trouvaient près du bois, qui vont être beaucoup plus fines, claires, souples, tendres, etc. Donc après, tout dépend de ce qu'on va faire avec. On va pouvoir utiliser les couches les plus grossières pour de la corderie. Alors, on va privilégier les couches les plus fines pour faire de la fine cordelette, de la ligature, peut-être du filet et voire du tissu. Donc voilà, selon la partie du libère que l'on va travailler, ben on va la destiner à des usages différents.
C'est vertigineux, Fabienne Médard, parce qu'en vous écoutant là, tout à coup, on vient de plonger en direct dans la préhistoire, parce que quand vous en parlez, on a l'impression que c'est vous qui faites tout ça.
Ben disons que je l'ai fait pour mieux le comprendre. J'ai fait pas mal d'expérimentations, enfin ce qu'on appelle de l'expérimentation archéologique, c'est-à-dire que oui, j'ai été écorcée des arbres, oui, j'ai roui du tilleul, j'ai surveillé, j'ai regardé. Ensuite, oui, j'ai pris cette matière première et je l'ai travaillée pour sentir en fait la réaction des matériaux, pour voir ce qu'on pouvait en extraire.
C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous avez reconstitué, retrouvé, deviner ce qui pouvait être fait, ou bien est-ce que vous aviez tout de même des exemples, des objets qui vous permettaient de vous dire qu'en effet, on a fait des filets, des cordages
Alors j'avais pour référence les produits finis qui dataient de l'époque néolithique, et j'ai essayé en fait de restituer le schéma opératoire de production de ces textiles, donc en partant de la matière première jusqu'au produit fini. Et effectivement, j'ai travaillé le libère de tilleul, en l'occurrence, de manière à obtenir des produits semblables à ceux que j'avais dans mon corpus d'objets textiles néolithiques. Je pense qu'on ne comprend pas si bien les choses si on ne les fait pas. Et donc j'ai pu fabriquer de la cordelette fine, j'ai pu ensuite la tisser, entre guillemets, puisque on parle de, pour le libère, la production textile, c'est ce qu'on appelle de la technique cordée.
Expliquez-nous peut-être comment on le fait, tout simplement, même si on n'a pas d'exemple visuel.
C'est assez difficile. Disons qu'on est plus dans une technique qui est à mi-chemin entre la vannerie et le tissage. Voilà.
Mais qui donne quand même un tissu qui permet de faire un vêtement, par exemple.
Qui peut donner quelque chose de très souple, précisément lorsqu'on utilise les parties fines du liber et qu'on fait de la corderie fine. Ça peut donner des choses qui sont souples et qui vont pouvoir aussi, mais pas que, couvrir le corps. Hein. Pour exemple, je m'en réfère aux Indiens d'Amérique du Nord, côte nord-ouest du Canada, Vancouver et plus au nord, qui travaillaient, il y a encore 150 ans, l'écorce de cèdre exactement de la même manière que ce que nous pouvons observer dans notre néolithique. Donc le parallèle, il est saisissant de vérité, d'actualité, parce que ils utilisaient le liber de cèdre, l'écorce de cèdre, pour fabriquer des textiles cordés dont ils faisaient des sacs, dont ils faisaient des capes, dont ils faisaient des jupes, des robes, etc. C'était le vêtement à tout faire.
Est-ce qu'il y a un outillage particulier? Justement, vous parliez tout à l'heure de l'outillage. Est-ce qu'on sait si ça passait sur un métier à tisser?
Alors non, justement, cette technique-là ne demande aucun outillage. Il suffit d'avoir deux mains et de savoir s'en servir, voilà, tout simplement. Donc, on fait la corderie sans outils, donc pas besoin de fuseau, pas besoin de fusaïol. On fait les cordes à la main et les cordelettes aussi. Et l'assemblage, c'est-à-dire le tissage cordé, se fait également sans outillage. On a des exemples aussi en Amérique latine où on tisse, entre guillemets, des nattes de sol en technique cordée sans rien que sur les genoux et les deux mains. Et les Indiens d'Amérique du Nord, justement, puisqu'on a des témoignages ethnologiques par rapport à ça, travaillaient la technique cordée sur des métiers. Mais alors, c'est deux piquets verticaux et un horizontal au sommet. On laisse pendre les fils et on travaille à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc, ça ne laisse aucune trace sur le plan de la culture matérielle, en dehors des vestiges textiles que l'on retrouve.
Mais alors, est-ce qu'à cette extraordinaire simplicité de moyens correspond une tout aussi extraordinaire dextérité? C'est-à-dire, est-ce que du coup, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser?
Non, justement, c'est pas quelque chose de difficile à réaliser. C'est vraiment, je pense, dans cet univers-là, c'est quelque chose de basique, de quotidien, que tout le monde est en mesure de faire. Il n'y a aucune complexité, et c'est ça qui est magique dans cette technique-là, c'est qu'elle n'est absolument pas complexe à mettre en œuvre. Après, on peut s'amuser à faire des choses un peu folles, on peut avoir de la fantaisie, mais la mise en œuvre reste vraiment simplissime, contrairement au tissage sur métier à tisser. Alors là, on est tout à fait dans d'autres schémas mentaux et dans d'autres techniques de mise en œuvre. Et les deux se côtoient au néolithique. Je ne dirais pas à parts égales parce que la technique cordée est beaucoup mieux représentée que le tissage. Mais à cela, il y a certainement des raisons dont je vais sans doute parler tout à l'heure. Mais il faut juste savoir qu'on a ces deux types de production qui se côtoient, qui ne sont pas représentés à part égale. Il y en a un qui est dans l'univers quotidien, qui est très simple à mettre en œuvre, et il y en a un qui est dans un univers qui ne semble pas être quotidien et qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre.
Mais alors oui, continuez. Là, vous en avez trop dit ou trop peu, Fabienne Méda.
Donc, on a vu plus ou moins ce que pouvait être la technique cordée, matière première récoltée dans l'environnement, qui ne nécessite pas un effort de culture ou...
C'est-à-dire, on est bien d'accord qu'on parle toujours pour l'instant du liber, donc de l'écorce des arbres. On n'a absolument pas abordé les plantes textiles.
Voilà. Alors, le liber, on va le considérer comme une plante textile, mais on est dans l'univers du chasseur-cueilleur. C'est-à-dire qu'on a beau être sédentaire au néolithique, il y a quand même des habitudes qui perdurent du paléolithique, des habitudes de chasseur-cueilleur, de subsistance liée à l'environnement naturel sans qu'il soit besoin de l'aménager. Pour assurer son autosubsistance par ses propres moyens et en étant complètement détaché des aléas de la nature. Donc, notre liber, il existe dans l'environnement, il est sur les troncs des tilleuls, des chênes, des ormes, etc. Donc, on va aller le chercher dans l'environnement naturel, on écorce son arbre, etc. Donc, évidemment, tout ça suppose un minimum de gestion de l'environnement.
C'est ça, Fabienne Médard. Vous dites qu'il n'y a pas besoin d'aménager son environnement, mais tout de même, il y a une action qui est faite sur l'environnement. Parce qu'on peut pas, j'imagine qu'on peut pas écorcer les arbres à longueur de temps et 50 000 fois.
Oui, alors justement, là, on est évidemment dans le domaine de l'hypothèse vraisemblable, parce qu'on n'a pas de traces là. Du coup, on est quand même beaucoup trop loin de ces périodes-là. Mais on peut décemment pas imaginer que les groupes humains ont exploité cette matière première pour faire le tout venant, mais quand même, je dirais, à une échelle suffisamment conséquente pour assurer le nécessaire, hein, sans avoir eu un minimum de gestion de leur environnement naturel. C'est-à-dire qu'on va en forêt, on va a priori choisir les tilleuls qui ne sont pas l'essentiel du couvert végétal. Donc déjà, on sélectionne certains arbres pour certains objectifs. Hein. Et ces arbres, ben, une fois, admettons, je prends un tilleul, je l'écorce complètement, eh ben, il va mourir, probablement à plus ou moins long terme, parce que l'écorce, elle, ne se reconstitue pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'arbre est écorcé, il garde cette cicatrice béante tout le restant de sa vie. Donc un arbre privé d'épiderme, privé de peau, on suppose qu'il ne va pas faire long feu derrière. Donc on va écorcer, mais je dirais de manière intelligente, pour ne pas épuiser la ressource naturelle. On a justement, j'en reviens aux Indiens d'Amérique du Nord, côte nord-ouest toujours, on a encore aujourd'hui, quand on se promène en forêt, des arbres qu'on dit anthropisés, c'est-à-dire que l'on voit des troncs de cèdres écorcés sur toute la hauteur, mais les Indiens n'écorçaient pas plus d'un septième du périmètre, parce qu'il fallait que l'arbre continue à vivre après. Donc, il va falloir plusieurs arbres et on ne va pas les tuer. Donc, il y a une gestion aussi pour les générations futures, etc. Il faut assurer
la pérennisation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils entretiennent la vie des arbres qui leur servent à faire ces fameux tissus.
Voilà, c'est ça. Et laisser aux jeunes arbres le temps de repousser. Évidemment, on n'a pas forcément besoin de troncs très très épais, mais il faut quand même un minimum. Pour exemple, toujours dans le même registre, j'avais lu, quand je faisais des recherches sur ce domaine, qu'en Russie, encore au début du XXe siècle, il y avait des plantations de tilleuls, toujours lui, hein, qui étaient destinées exclusivement à l'extraction du liber, dont on faisait des étoffes d'emballage relativement grossières. N'empêche, et cet écorçage du tilleul et ce traitement de la matière première occupaient des villages entiers à certaines périodes de l'année. Alors, il faut savoir juste que l'écorçage, on le fait généralement au début du printemps, quand la sève remonte dans le tronc de l'arbre, parce que ça, elle permet en fait de détacher l'écorce plus facilement. Donc au printemps, dans ces régions de la Russie, les populations, les villageois se regroupaient, allaient écorcer leurs plantations de tilleuls pour fabriquer des étoffes d'emballage pour les meubles par exemple qui transbordaient par bateau.
Mais alors, revenons à votre récit, Fabienne Médard, parce que vous avez à plusieurs reprises évoqué le fait qu'il y avait du quotidien, justement, du tout venant, quelque chose qui était extrêmement accessible, et on est toujours là-dedans, effectivement, dans cette matière première qu'on peut récolter autour de chez soi et commencer à mettre en œuvre immédiatement, sans le moindre outil, sans difficulté. Mais vous disiez qu'il y a aussi des choses plus complexes et les métiers même dans un univers mental différent.
Oui, alors justement, ça c'est l'autre aspect, l'autre pôle de production textile, c'est le tissu. Les tissus tels qu'on le connaît aujourd'hui, la toile, voilà, tout simplement. Et donc, nous avons au Néolithique une partie de la production textile qui est réalisée, de toute évidence, sur des métiers à tisser verticaux, à poids, en tout cas au moins. Peut-être pas que, mais au moins. Et ces tissus, on a analysé les fibres. Autant que l'on puisse le dire, il s'agit de lin, semble-t-il, de lin cultivé. Alors, je mets tout de suite un petit bémol sur la matière première, c'est-à-dire que on peut fabriquer du tissu avec du lin, en effet, des fibres de lin, mais aussi avec, par exemple, de l'ortie. Or, l'ortie, c'est une matière première disponible également sans être cultivée, puisqu'elle pousse dans les milieux anthropisés très volontiers. Et donc, elle peut produire une fibre textile exploitable qui ressemble fort au lin. Et il est très difficile de faire la différence entre une fibre de lin qui a 6000 ans et une fibre d'ortie qui a le même âge. Donc, on n'est pas toujours à 100% certain de la qualité de la matière première que l'on a sous les yeux. On sait juste que ce sont des fibres, on va dire des fibres de tige, pour être simple. Mais voilà, moi j'ai toujours un doute entre le lin et l'ortie.
C'est deux plantes simplement, ou bien est-ce que vous pensez qu'il pourrait y en avoir d'autres ?
Il peut peut-être en avoir d'autres. Alors j'élimine tout de suite pour nos régions et à cette époque, tout ce qui est chanvre, jute, ce genre de matière première n'existe pas dans notre environnement à cette époque, c'est beaucoup plus tardif. Néanmoins, des matières textiles, potentiellement, il y en a certainement d'autres. Je parle de ces deux-là parce qu'on le sait, d'après les graines, les pollens, etc., qu'elles sont dans l'environnement des villages et qu'on sait de toute façon que les populations néolithiques cultivent le lin. On le sait par le textile, vraisemblablement, mais on le sait aussi par les graines, par d'autres témoignages. Donc évidemment, il y a de fortes chances pour que une partie des textiles tissés que l'on a retrouvés soit effectivement fait de fibres de lin. Alors le lin, c'est une matière première qui se cultive. Donc on la cultive pour ses graines, on les absorbe, c'est oléagineux, c'est nutritif, ça a grand intérêt pour les fibres. Et donc il y a un effort de culture et c'est ça aussi qui oppose le lin au libère. Il y a un effort de culture et le lin n'est pas une plante particulièrement facile à cultiver. Elle épuise les sols, donc il va falloir tourner certainement. Et puis, si on se place dans un univers préhistorique, elle est certainement aussi assez convoitée des rongeurs et donc peut-être soumise aussi à des aléas climatiques, des intempéries. Donc, c'est pas tout à fait sûr que c'était une matière première qu'on récoltait en grosse quantité chaque année. Voilà. Donc, il faut imaginer en plus des champs qui sont bien moins importants en dimension que nos champs cultivés. Donc, des petits champs, peut-être avec des souches d'arbres au milieu, avec peut-être des plantes parasites aussi qui poussent au milieu. On n'est pas dans la linière contemporaine avec des kilomètres de tiges alignées. Ça a certainement une toute autre allure. Donc, la fibre de lin, elle se trouve dans la tige. Donc, une fois qu'on a récolter les graines, etc., il nous reste les tiges. Alors on va prendre les tiges et de nouveau, comme pour le libère, il va falloir les rouir parce qu'on ne peut pas sortir la filasse de lin sans le rouissage. Voilà, tout simplement, il va falloir pourrir cette partie qui s'appelle également l'écorce de la tige pour ensuite pouvoir sortir la fibre de lin. Voilà, donc la matière première est moins abondante, donc on va cibler son utilisation. Voilà, c'est un petit peu là qu'il faut en venir, c'est qu'on ne va pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. En tout cas, c'est ce qui ressort d'après les analyses de restes textiles. Qu'est-ce qu'on a comme reste de tissu tissé au néolithique, pour le néolithique ? Eh bien, il semblerait justement que nous ayons des tissus qui ne soient pas fabriqués en très grande largeur. Il arrive assez fréquemment que l'on retrouve des lisières, c'est-à-dire les bords des tissus, que ce soit en lisière de départ ou en lisière latérale. Et quand on a beaucoup de chance, on a les deux lisières latérales. C'est assez rare, mais du coup, ça nous donne une idée beaucoup plus précise de la largeur des tissus qui étaient fabriqués. Or, sauf évidemment exception, il y a peut-être et certainement des tissus un peu plus grands, mais il ne faut pas imaginer des tissus d'un mètre cinquante, deux mètres de large. Ça, c'est quasiment illusoire. On est dans une production en bande, voilà, de bandes de tissus telles qu'on peut encore les voir fabriquées en Afrique sur des métiers horizontaux par les anciens. Voilà, des bandes de tissus assez peu larges. Je ne dis pas qu'ils vont être assemblés parce que effectivement, en Afrique de l'Ouest notamment, on fabrique des tissus de coton assez peu larges qui sont ensuite assemblés pour avoir des étoffes de grande dimension. Dans notre néolithique, il semblerait que les choses ne soient pas tout à fait identiques parce que nos tissus sont extrêmement bien finis sur les côtés. C'est-à-dire que nos lisières latérales, nos lisières de départ et de fin sont toujours très très soignées. Donc, de toute évidence, ces lisières ne sont pas faites pour être coupées. On n'est pas dans le coupé-cousu, comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui. C'est-à-dire que le tissu, à la tombée du métier, eh ben, il est terminé et il ne sera pas retravaillé. Peut-être en broderie, peut-être en ajout, mais il ne sera pas coupé, assemblé.
Et donc, il servira à enrouler, envelopper, il sera...
Alors, pour l'usage, c'est assez délicat, mais je ne pense pas qu'il faille penser tissu, vêtements. Il ne faut pas faire cette équation-là. C'est une équation, je dirais, qu'on a tendance à faire, qui est très contemporaine à cette époque-là. Imaginez une écharpe. Voilà. Une bande de tissu finie quand on la sort du métier. Elle a ses franges, elle a ses bordures, elle n'est pas faite pour être découpée, elle n'est pas faite pour être assemblée à autre chose. Eh bien, on est plutôt dans ce type de réalisation-là. Alors, c'est pas fait pour habiller. En tout cas, pas à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être qu'on en fait des accessoires vestimentaires de prestige. Peut-être qu'on en fait une monnaie d'échange. Tout semble indiquer qu'on est dans une production élitiste. De prestige, destiné à des personnes ou à des usages qui sont des personnes ou des usages d'exception. De même que l'artisan, le tisserand, semble être au néolithique ancien, moyen et même récent, une personne qui a un savoir-faire qui n'est peut-être pas accessible à tous. J'entends la disposition des poids de tisserand dans les villages néolithiques. Nous avons ça pour réfléchir sur le sujet. C'est-à-dire qu'aux périodes anciennes, il y a assez peu de regroupements de poids de tisserand dans un village. C'est-à-dire que soit ils vont être à l'écart, dans un bâtiment qui semble pas être mélangé aux autres bâtiments, soit les poids de tisserand vont être regroupés dans une unité d'habitation. Peut-être deux, mais pas plus, sur un nombre beaucoup plus important de bâtiments. Et plus on avance vers le néolithique final, plus le nombre d'amas de poids de tisserand se multiplie. Donc il semble, si l'on en juge par ces traces, qu'il y ait vers le néolithique final une espèce de démocratisation du tissage. Il semble qu'on le pratique dans de plus nombreuses unités d'habitation. Donc ce n'est certainement plus une chasse gardée au néolithique final, alors que ça l'est apparemment, en tout cas ça pourrait l'être aux périodes plus anciennes. Donc tous les indices convergent pour montrer qu'aux périodes anciennes, cette façon de fabriquer du textile est un domaine réservé. Dans la fabrication et dans les usages, et dans la destination. Alors que plus on avance vers le néolithique final, plus tout ça semble se divulguer, se diffuser.
Mais alors aussi qu'il y a tous ces premiers usages textiles que vous avez évoqués, Fabienne Médard, et qui, eux, sont beaucoup plus largement partagés dès le début. Toutes ces fusaïoles, ces fuseaux qu'on a retrouvés, eux, ils sont disséminés, ou alors eux aussi sont... réservé à ceux qui savent, aux artisans.
Non, alors pour ce qui est du filage, il semble que ce soit une activité domestique exercée n'importe où. En tout cas, si l'on en juge par la répartition des vestiges au sol, il n'y a pas de concentration. On en retrouve un peu partout sur les sols d'habitat, contrairement aux poids de tisserand. Donc il faut juste savoir que le filage est une activité qui demande à peu près 5 à 10 fois plus de temps que le tissage. C'est très long. De l'extraction de la matière première jusqu'à la production du fil, il y a là tout un pan de la chaîne opératoire qui prend beaucoup de temps, qui est relativement ingrat d'ailleurs, alors que le tissage, c'est la partie, l'aboutissement, où on voit se réaliser le produit, et là on est dans quelque chose de beaucoup plus valorisant. Les fusaïoles, on en trouve partout, tout le temps.
Et une petite question pour essayer d'élargir le contexte. On n'a pas du tout parlé, Fabienne Médard, par exemple, des chaussures. Et j'étais en train de me demander, en vous écoutant, si cette hypothèse que vous faites d'une sorte d'aristocratie des artisans vaut pour d'autres types d'artisanat, les cordonniers en l'occurrence, si tant est que les cordonniers existaient, ou d'autres formes d'artisanat, ou bien si c'est véritablement quelque chose qui est propre à cet artisanat du textile.
Non, je pense qu'il y a plusieurs types d'artisanat qui sont des artisanats, je dirais, d'élite, des productions réservées, d'exception. Mais alors pour tout ce qui est chaussures, comme on n'a pas le cuir conservé dans ces contextes-là, il est difficile d'en parler. Par contre, il faut quand même qu'on garde à l'esprit cette découverte exceptionnelle qui a été faite dans le glacier de Lötztal en 1991. Cet homme...
Ötzi,
qui lui date du néolithique récent, 3300 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Et cet homme, on l'a retrouvé là-haut, congelé, et il était habillé tout en peau. Et ça, c'est très intéressant, parce que malheureusement, il est unique, j'espère qu'on en trouvera d'autres, mais il est habillé tout en peau, il n'a pas le moindre tissu sur lui. Et ça, c'est quand même bien révélateur. Je veux bien admettre qu'il était peut-être équipé...
Pas un petit sac, pas une petite écharpe, pas une petite cape.
Alors, une petite cape en herbe, semble-t-il, bien que apparemment la cape soit plus ou moins contestée. Mais enfin bon, il a quelque chose en technique cordée fait à base de graminées, de fibres végétales. Et il a son étui de poignard qui est en libère de tilleul, en technique cordée également. Donc voilà, mais sur lui, pour le couvrir, pour l'habiller, il n'y a pas un atome de tissu. Donc... L'idée, c'est quand même que le tissu, à cette époque-là, n'habille pas. Ça n'est pas du vêtement. Ça le deviendra. Probablement, à la toute fin du néolithique et à l'âge du bronze, ça le deviendra. Notamment parce que l'outillage, l'analyse de l'outillage tend à montrer qu'il y a des changements. Et évidemment, on pense à l'introduction de la laine dans le textile à ce moment-là. En plus, la démographie... explose à la fin du néolithique, il y a beaucoup, la population est plus importante, il faut habiller ces gens, et peut-être aussi que la part de chasse et de cueillette diminue au profit justement d'une subsistance assurée par ses propres moyens pour ne pas être tributaire des aléas de l'environnement. Quelque chose se passe à la toute fin du néolithique à ce niveau-là, mais avant, il est fort probable que les populations étaient habillées, en tout cas pour ce qui est du vêtement, essentiellement de peau. Peut-être une cape en étoffe cordée, peut-être une jupe en étoffe cordée de temps en temps, mais l'essentiel devait être fait de peau, de fourrure, que sais-je. D'ailleurs, on a des choses qui sont assez amusantes. On a des étoffes cordées à mèches au néolithique. Il faut imaginer ces petites mèches végétales accrochées dans la réalisation d'étoffes cordées qui font comme une pelisse en fait, qui sont probablement des imitations de fourrures fabriquées à l'aide de matières végétales.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Cédric Paulet, comment est-ce qu'on peut vous présenter ? Photographe, botaniste, collectionneur, amoureux des arbres ?
C'est un peu un mélange de tout ça, en fait, mais à la base, je dirais plus, on pourrait me présenter comme un véritable fou d'écorce. J'adore les photographier, bien sûr. Je les photographie depuis maintenant plus de 16 ans. J'adore les caresser, les observer, les toucher, les manger.
Vous mangez des écorces ?
Bien sûr, oui. Ben, vous aussi, vous en mangez. La cannelle, c'est une écorce que l'on mange. Il y a l'écorce de l'arbre à ail, de l'arbre à oignon. Il y a plein d'écorces, en fait, qui sont utilisées en tant que condiments. Épices, condiments. Et puis les écorces, j'adore les collectionner. J'ai une âme de collectionneur aussi, de scientifique. Donc j'essaye de constituer une collection scientifique sur ce sujet.
Scientifique et artistique, puisque quand on rentre chez vous, on remarque immédiatement des panneaux absolument splendides dans lesquels vous avez agencé des familles d'écorces qui sont de toute beauté.
J'attache une grande importance en fait à l'aspect esthétique et artistique. La botanique, c'est toujours une discipline qui peut sembler barbare aux gens qui connaissent pas trop les plantes.
Austère, en tout cas.
Austère. Et une discipline un peu difficile dans laquelle on a du mal à rentrer si on connaît pas trop. Et surtout avec des, quand je parlais de barbare, c'est des mots compliqués, difficiles à comprendre. Et donc, j'essaye à ma façon de faciliter l'accès à cette discipline qui est la botanique et qui est les plantes. Donc, en essayant de jouer sur la fibre sensible, en jouant sur l'esthétisme, sur la beauté des choses, pour que ensuite le lecteur et la personne qui voit mon travail puissent avoir envie d'aller un peu plus loin, au-delà de la beauté.
La richesse aussi, parce qu'on pourrait se dire, les écorces, c'est vraiment un sujet très pointu et il ne doit pas y avoir grand-chose à voir ou à dire. Et là, surprise.
Ah, c'est vrai que, a priori, quand on parle d'écorce, la plupart des gens pensent que d'abord c'est assez monochrome, monotone, inerte, ça sent pas beaucoup d'intérêt. La preuve en est, j'ai mis 7 ans à trouver un éditeur pour publier mes ouvrages sur les écorces parce qu'ils avaient aucune idée de ce que pouvait être le monde des écorces et son immense diversité. Et puis dès qu'on met le pied dedans, ça devient un véritable virus et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une diversité de textures, de couleurs immense et surtout, en fait, d'utilisation dans le monde entier. Que ce soit ne serait-ce que dont on a parlé de la cannelle, par exemple, que l'on va manger, l'écorce du bouleau, l'écorce du tilleul qui a été ancestralement utilisée par les hommes préhistoriques, que ce soit les écorces des cerisiers et fleurs du Japon aussi, utilisées par les samouraïs. Il y a plein d'utilisations.
Pour quoi faire ?
Pour faire, entre autres, des boîtes à thé. Depuis plus de 200 ans, les samouraïs ont utilisé l'écorce du cerisier pour fabriquer des objets artisanaux.
Alors c'est pour ça qu'on est venu vous voir, Cédric Paulet, c'est pour faire la jonction avec les travaux de Fabienne Médard, qui nous a donc parlé de toutes ces utilisations de l'ère préhistorique. Mais effectivement, vous, votre collection concerne l'ensemble du monde et l'ensemble des époques.
Oui, c'est vrai que j'ai réussi à collecter quelques objets assez anciens. Après, je m'attache aussi à voir ce que les autochtones dans différents pays arrivent à continuer à produire.
Jusqu'à aujourd'hui,
soit en gardant les anciennes méthodes, soit en l'adaptant un petit peu au goût d'aujourd'hui, puisque par exemple, je vous parlais des boîtes à thé que faisaient les samouraïs. On a gardé la tradition, on continue à faire ces boîtes à thé, mais maintenant on fait des coques d'iPhone en cerisier du Tibet, par exemple. Donc, c'est toujours l'art et la tradition est restée, mais on l'a adapté aux objets usuels actuels, quoi.
Il y a aussi tout un colis que vous venez de recevoir de Sibérie, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Par hasard, comme souvent, je cherche sur Internet par des mots-clés, écorce, boulot, etc., ou en anglais. Et je suis tombé avec une jeune Russe qui vendait 2-3 objets qu'elle avait, parce qu'elle avait ouvert une boutique à Nantes d'objets fabriqués à partir d'écorce de boulot. Et il lui en restait quelques-uns, elle s'en débarrassait, donc je lui ai acheté, puis on a sympathisé. Je lui ai expliqué ce que je faisais, ce que je recherchais. Et elle m'a indiqué quelques sites internet en russe. Elle est traductrice en même temps, donc elle s'est proposée de traduire tout ça pour moi. Et elle m'a ciblé un ou deux artisans qui font ça vraiment traditionnellement en Sibérie. Et donc, je viens juste de recevoir, il y a 3 jours, mon cadeau de Noël, avec une grosse boîte remplie de boîtes de toutes sortes fabriquées en écorce de bouleau.
Mais alors, décrivez-nous mieux, Cédric Paulet, parce que c'est assez étonnant ce qui est sorti de cette boîte.
Alors, dans cette boîte-là, on a aussi bien des chaussures traditionnelles qu'on appelle des lapties, qui sont en fait juste en tressant les écorces les unes avec les fibres des écorces les unes avec les autres pour faire des sortes de petits chaussons.
Ça permet vraiment de marcher ou c'est pour rester à l'intérieur ?
Ça, c'était la chaussure traditionnelle du paysan russe. Donc c'était vraiment une chaussure très utilisée.
Dehors aussi ?
Aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Parce que l'écorce de bouleau semble a priori très fine et très fragile. Mais quand elle est collectée sur plusieurs épaisseurs. Et elle devient très difficile à déchirer. Donc elle est imputrescible, imperméable. Et peut résister comme ça des années et des années. Et donc on a aussi bien ce genre d'objet dans chaussures. Que des casquettes, par exemple, ça reste assez...
Casquettes de baseball.
Casquettes de baseball, exactement, ça reste assez folklorique. Mais elles sont décorées finement, gravées, sculptées, puisqu'on a plusieurs épaisseurs d'écorce, donc on peut rentrer dans une ou deux couches d'écorce. On a essentiellement beaucoup de boîtes de contenants, puisque l'écorce de bouleau, en fait, est réputée pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, protège de l'humidité. Donc, on s'en servait beaucoup en Russie, notamment donc pour stocker, par exemple, tout ce qui est thé, sel,
épices,
sucre, etc. Mais aussi donc du liquide, et notamment du lait. On stockait beaucoup de lait. Et justement, il a aussi une autre propriété, un peu comme le liège, de maintenir la température. Donc, comme une sorte de thermos naturel, puisque le lait restait froid ou restait chaud, suivant si on venait juste de le traire, de le récupérer.
Mais vous en parlez au passé, Cédric Pollet, on ne fait plus ça. Ce que vous avez reçu, c'est...
Alors ça reste de l'artisanat. Traditionnellement, les Russes achètent toujours ce genre de boîte, mais ça se fait bien sûr de... Maintenant, les conteneurs ou les contenants traditionnels en plastique ont bon coup remplacé malheureusement tout ça. Mais bon, si vous êtes déjà allé en Russie, souvent dans des petits échoppes pour les touristes, on retrouve aussi ce genre d'artisanat. Donc ça perdure pour les touristes aussi, mais c'est beaucoup moins quand même utilisé qu'avant chez les autochtones. Alors là, j'ouvre une boîte en fait qui résume un peu quelques objets fabriqués par les peuples, notamment de la Polynésie française, par exemple, Tahiti, toute la Mélanésie. On va avoir les îles Salomon, les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée également. Donc tous ces peuples-là utilisent l'écorce de 2-3 arbres. Alors on peut avoir l'écorce de l'arbre à pin, on va avoir l'écorce de certains ficus, figuier, et l'écorce, beaucoup l'écorce du mûrier à papier. Et notamment cette écorce-là, le mûrier à papier, a, pendant très 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 longtemps, a été utilisée en tant qu'écorce battue, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc on sépare l'écorce interne du mûrier à papier du bois, on lui débarrasse sa couche externe, et on va garder les fibres de cette couche interne d'écorce que l'on va battre, mouiller, battre, bouillir, etc., étirer les fibres, et on va faire ce qu'on appelle l'art du tapa. Donc les tapas, ce sont ces étoffes traditionnelles que beaucoup de peuples, en Afrique également, hein, notamment les pygmées, fabriquent beaucoup, beaucoup de tapas. Eux, ils fabriquent beaucoup à partir d'iroko ou à partir d'écorce de figuier également. Mais traditionnellement, c'est beaucoup utilisé à partir de mûrier à papier. Et ensuite, ces tapas, une fois qu'ils forment véritablement une étoffe, vont être dessinés à partir de pigments naturels. Et chaque tribu a des pigments bien spécifiques, que ce soit végétaux ou minéraux, et des motifs qui leur sont propres.
Et ce sont des étoffes qui servent à quoi ?
Alors ces étoffes, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, des films parlant des papous par exemple, on les retrouve nus avec leurs vêtements en fait, des pagnes. Donc ils s'en servent soit comme vêtements, soit pour habiller, tapisser leur case tout simplement, hein, pour décorer. Les pygmées les utilisent beaucoup aussi dans des cérémonies traditionnelles, rituelles. Par exemple chez les Tongiens, par exemple, on fait lors des cérémonies de mariage, on fabrique un immense tapa qui peut faire plus de 100 mètres de long.
Vous dites « on », à ce moment-là, ça se fait collectivement ?
Alors là, ça se fait collectivement, bien sûr. Il va être délimité par des numéros. On va quadriller, séquencer ce tapa avec un numéro, c'est marqué, hein, 1, 2, 3, jusqu'à 100 peut-être. Et en fait, par exemple, lors d'une cérémonie de mariage, chaque invité repart avec un ou deux numéros de cette cérémonie pour avoir un souvenir. Donc il y a cette importance-là, à la fois décoratif mais rituel, de cette écorce battue dans ces peuples-là. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On peut avoir aussi... Vous connaissez tous cette boîte.
Oui, c'est une boîte de fromage.
Alors, c'est une boîte de fromage. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité, mais c'est un fromage bien particulier qu'on mange aux fêtes de Noël, en général, le Mont-d'Or. Et il est particulier parce que, justement, sa maturation se fait grâce à l'écorce de l'épicéa, tout bêtement. En fait, il existe un métier qu'on appelle le sanglier. Alors, ça n'a rien à voir avec la bête. Mais c'est une personne qui travaille dans les forêts vosgiennes, entre autres, qui utilise un petit ustensile que j'ai ici, comme une sorte de couteau assez épais, qui permet de curer l'écorce. On enlève donc le sanglier, qui est la personne qui récolte des sangles d'épicéa. Il va enlever la vieille écorce morte de l'épicéa. Il va ne garder que l'écorce interne, qui a ce côté résineux, qu'il va donc récolter sous forme de sangles de 3 à 4 cm d'épaisseur. Et ces sangles-là, on va les entourer on va les mettre tout autour dans la boîte du fromage, on va couler le fromage à l'intérieur, et en ce faisant, les substances un peu résineuses qui étaient dans l'écorce vont se retrouver dans le fromage que l'on a voulu affiner de la sorte.
Ça me rassure en fait que vous racontiez ça, Cédric Pollet, parce qu'à plusieurs reprises, vous nous avez montré des objets en disant « mais ça aujourd'hui, ça n'est plus que dans les boutiques de touristes, ça n'est plus que pour les touristes », comme si c'était devenu des sortes de vestiges un peu inutiles pour rapporter des souvenirs inutiles des quatre coins du monde, mais en fait, il y a encore une utilité à toutes ces écorces.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'utilité, et même localement, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui utilisent les écorces pour des objets usuels. Et on parlait des papous tout à l'heure, avec les tapas et les étoffes qu'ils font. Ils font notamment, par exemple, d'immenses masques. J'en ai un petit échantillon ici, pour une fête traditionnelle qu'on appelle la danse du feu. Et ça se fait bien sûr toujours actuellement. Hein, et donc c'est un peu une fête vraiment rituelle qui permet les jeunes enfants de passer de l'âge enfantin à l'âge adulte. Ils sont pourtant en âge encore adolescent, mais ils doivent faire cette danse du feu et être tout nus, se parer d'une immense coiffe fabriquée à partir de tapas, qui forment des masques rappelant certains dieux ou certaines entités de leur forêt. Et ils doivent marcher pieds nus sur le feu et doivent battre le feu avec leurs pieds en faisant ressortir le maximum de braise. Ça se fait à la nuit, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart de ces échantillons que j'ai de masques sont un peu brûlés, carbonisés, parce qu'ils ont vécu et ils ont passé l'épreuve du feu, justement.
Voilà, je vous dis au revoir ce matin pour la dernière fois. À la rentrée, un nouveau magazine de l'environnement verra le jour, présenté par une autre personne, à un autre horaire. C'est une décision à laquelle j'ai été pleinement associée. Je pars, après 17 ans de terre à terre, avec des projets qui me tiennent à cœur. Des projets qui m'ont été insufflés par vous tous. Vous, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai dialogué pour l'émission, et dont j'ai admiré l'engagement, le courage et l'inventivité. Vous aussi, auditeurs attentifs, touché comme moi par ce que vous entendiez, touchant dans vos réactions chaleureuses et fortes. Et vous, Laurence Genepin, Anne Gouzon, Jean-Christophe Francis et Olivier Bétard, qui m'avez entouré de votre amitié. Je vous emmène avec moi dans ma nouvelle vie, les mains dans la terre. Nous partageons ce goût pour ce qui vit, ce qui pousse, ce qui perce l'échappe et s'installe dans les moindres recoins, une terre en friche, un bout de parking, une ZAD, un squat. La vie résiste et nous sommes nombreux à l'y aider. Terre à Terre vous a été proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Ariane Herbet, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne continuation à tous.